Le gouvernement dépose sa nouvelle mouture de la loi 101. On va en parler tout de suite avec Nathalie Normando. Nathalie, écoute, avant d'aller plus loin, est-ce que je peux te faire entendre un extrait de ce qui a été dit ce matin?
Bien sûr.
À propos de la nécessité de faire ça. Parce qu'il y en a qui doutent que la langue française, elle est menacée au Québec. On dit, regardez, puis je me suis... Dans le discours que je te fais entendre de René Lévesque devant les Français, il y a 40 ans, il disait... Là-dessus, il citait, je ne sais pas quel grand sage, qui disait qu'à la fin des temps, il va rester deux peuples sur la Terre, les Chinois et les Québécois, tu sais, tellement qu'on n'est pas tuable. Tu sais. Mais quand même, tu sais, c'est la langue française, elle est menacée. Voici ce qu'a dit là-dessus M. Jolin Barrette plus tôt aujourd'hui.
Vous avez parlé des risques, M. Legault, associés à la langue française, en fait, le recul du français au Québec. Si on n'adopte pas ce projet de loi, si on ne fait rien, si on garde le statu quo, avez-vous une idée de ce qui va arriver statistiquement à la majorité francophone au Québec? Pour se donner une idée là, de voir où on s'en va avec ça. Là.
Oui, mais dans le fond, juste pour vous donner un exemple... En 1977, quand M. Lorrain a présenté la loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, le taux de transfert linguistique, donc ça veut dire au niveau des nouveaux arrivants qui décident de choisir le français comme langue commune au Québec, était d'à peu près 25-26. En 44 ans, ce taux-là de transfert linguistique a été monté jusqu'à... Dans les dernières années, sont à 53. Or, pour s'assurer qu'au Québec, on puisse parler français, les démographes, dans le futur, et assurer la pérennité de la langue, les démographes disent qu'on devrait atteindre un niveau de 90. Alors, on a beaucoup de chemin à faire entre 53 et 90 au niveau du taux de transfert linguistique. Juste pour vous illustrer, dans le reste du Canada, le taux de transfert linguistique, lorsqu'on accueille des nouveaux arrivants, au Canada, il est de 99 vers l'anglais. Et au Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue, le taux de transfert linguistique, il est de 90 vers l'anglais. Alors, pour assurer la pérennité de la langue française, un des grands défis, c'est d'intégrer en français les personnes immigrantes au Québec pour faire en sorte que la société québécoise puisse demeurer francophone. Et on met beaucoup d'efforts dans le projet de loi. On a déployé des ressources également au ministère de l'Immigration pour assurer la francisation des personnes migrantes. C'est pour ça qu'on crée Francisation Québec en lien avec le projet de loi, pour centraliser l'offre de services en français, les cours de français, mais aussi pour faire des cours de français en entreprise, donc la francisation en entreprise.
Je suis capable de dire, je sais pas, mais dans 50 ans, si on fait rien, il n'y aura plus de français au Québec ou la majorité francophone, l'anglais va avoir surpassé le français. Est-ce que vous avez des projections comme ça pour être capable d'ancrer justement l'importance de ce projet de loi-là?
L'OQLF a publié une étude, je crois, il y a de ça environ un mois et demi ou deux mois, qui donnait la tendance jusque pour les 20-25 prochaines années et démontrait clairement un recul de l'utilisation de la langue française si rien n'est fait. Alors, c'est pour ça qu'on agit. On veut s'assurer de faire en sorte que le français demeure la langue commune au Québec. Je vais vous référer à l'étude de l'OQLF qu'on pourra vous faire parvenir après la conférence de presse.
OQLF étant l'Office québécoise de la langue française. Nathalie, c'est
oui,
à toi.
Tout d'abord, le ministre aurait pu citer des statistiques du communiqué qu'ils ont émis ce matin. Et on s'entend, Robert, là. Le recul du français, c'est beaucoup l'affaire de l'île de Montréal. Hein. C'est beaucoup une réalité qu'on retrouve sur l'île de Montréal. Mais, quand même, avec ce projet de loi qui est déposé aujourd'hui, qui s'intitule, faut-il le rappeler, je prends 3 secondes pour le dire, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Parce que jusqu'à maintenant, et la loi 101 et la loi qui l'a précédée, qui était adoptée sous le gouvernement de Robert Bourassa en 1974, visait à reconnaître le français comme langue officielle. Là, on ajoute un élément, on fait du français la langue commune également de tous les Québécois. Un exemple concret, la moitié des étudiants de niveau collégial à Montréal choisissent de fréquenter un cégep anglophone. La langue utilisée en milieu de travail sur une période de 10 ans entre 2006 et 2016 a affiché un recul. Tu vas me dire, c'est peut-être pas si important. On est passé de 82 % à 79,7 %. Statistiquement, ça semble pas très élevé. Mais de décennie en décennie, c'est là que le problème survient parce que ça s'érode, tu comprends?
C'est ça.
Alors, d'où l'importance, puis Simon-Jolin Barrette et le gouvernement visent juste à mieux accompagner les immigrants qui sont accueillis au Québec pour faciliter leur apprentissage du français. Ça, c'est très important. Et l'autre chose aussi qui est fondamentale, au-delà, parce que je vais te parler de quelques instants du ministère, du commissaire et tout ça,
oui.
C'est le fait d'enchâsser dans la Constitution, et là, je sais que tu te poses beaucoup de questions et que tu es même sceptique, mon cher ami. Alors, le Québec veut utiliser une disposition dans la loi constitutionnelle qui permet à une province d'édicter ses choix, je vais le dire comme ça. Alors, ce que le projet de loi propose, c'est d'inscrire deux nouveaux articles dans la loi constitutionnelle de 1867, qui était à l'origine de la création du Canada tel qu'on le connaît. Alors, on veut...
Auquel d'ailleurs, puis je pense qu'il faut le dire, le Québec n'a pas encore adhéré.
Voilà, exactement.
Oui.
Alors, on veut faire en sorte que... On veut reconnaître que les Québécois et Québécoises forment une nation. Ça arrive 15 ans après que le gouvernement de Stephen Harper, rappelle-toi, a fait adopter une motion à la Chambre des communes pour reconnaître le Québec comme société distincte.
Oui.
Mais on ne l'avait pas enchâssé dans la Constitution à ce moment-là. Et une autre disposition qu'on souhaite enchâsser dans la Constitution, c'est celle qui fait que le français est la langue officielle du Québec, de même que la langue commune de la nation québécoise. On ne connaît pas encore la réaction du gouvernement fédéral. Ce que je peux te confirmer, cependant, c'est que le cabinet de la ministre Mélanie Joly, qui est responsable des langues officielles, et le cabinet du ministre Simon-Jolin Barrette se sont parlé avant que la loi soit déposée. Le cabinet de Mélanie Joly a été briefé. Les relations sont cordiales entre les deux. Alors, je ne sais pas quelle sera la réaction d'Ottawa,
mais... Nathalie, tu sais que les mécanismes, toi qui es une politicienne d'expérience,
les
mécanismes pour aller tripatouiller dans la Constitution canadienne impliquent l'assentiment d'une majorité d'élus canadiens et des provinces.
Il semblerait que dans ce cas-ci, ce ne sera pas nécessaire. Il y a certainement un jour quelqu'un de plus équipé que moi sur le plan du droit constitutionnel qui pourra te l'expliquer.
Okay, parfait.
Cependant, c'est pour ça que François Legault a dit ce matin en conférence de presse, j'ai écrit à tous mes vis-à-vis dans les provinces, de même qu'au premier ministre. Et là, écoute, Robert, politiquement, là, imagine, ça arrive un moment où on sera en élection fédérale dans quelques mois.
Oui.
Est-ce que tu imagines le premier ministre Justin Trudeau décrier ce désir du Québec, hein, de voir son droit d'être reconnu dans la Constitution canadienne,
un maudit bon coup de main au Bloc québécois?
Ben, c'est-à-dire que je sais pas qui en bout de ligne va être gagnant. Ben, Justin Trudeau a intérêt à pas trop déchirer sa chemise, tu comprends? Puis surtout qu'Ottawa a déposé un projet de loi, justement, pour donner un peu plus de mordant à la loi sur les langues officielles au Canada. Mais au-delà de ça, sur le plan politique, ben, tu vois, il y a beaucoup de choses. Écoute, on parle d'une vingtaine de mesures. C'est un projet de loi, effectivement, extrêmement costaud. Bon, sur le plan des cégeps anglophones, Gilles Proulx l'a dit, il y a une disposition qui est prévue là-dedans. Un exemple concret, OK?
Oui,
mettons qu'il y a 10 000 étudiants qui s'ajoutent au niveau collégial au Québec. Pour les collèges anglophones, il y en a à peu près 7-8 au Québec, là, des cégeps anglophones. On va plafonner le nombre d'étudiants à 870. Fait que pour 10 000 nouveaux étudiants qui vont arriver au niveau collégial, mettons l'année prochaine, on va dire aux collèges anglophones, vous pouvez pas accueillir plus que 870 étudiants. Et les étudiants anglophones, ceux qui ont des droits, là, ceux que Simon-Jolin Barrette appelle les ayants droit, hein, ceux qui ont des droits sur le plan linguistique, eux devront être priorisés par les cégeps anglophones. Ça, c'est une chose. Sur la loi, sur l'affichage, ça, c'est intéressant. Parce que là, je me demande, parce que là, on veut passer, dans le fond, on veut s'assurer qu'il y a une nette prédominance du français dans l'affichage. Ça veut dire quoi concrètement? Je m'en vais à Trois-Rivières, au boulevard des Estacades, là, puis tu sais, il y a plein de commerces qui sont là, Walmart, Canadian Tire. Alors, il va se passer quoi? Second Cup? Il va se passer quoi avec tous ces commerces-là, dans le fond? Subway, est-ce qu'on va traduire ça? Tout ça, tu sais, ça, tu comprends? C'est cette question-là, pour moi, demeure sans réponse. Et par exemple, ce qui me vient en tête, c'est que les efforts qu'a fait Bureau en gros, rappelle-toi, une certaine époque, bureau en gros, c'était quoi au Québec? C'était Staples. Là, maintenant, c'est bureau en gros. Alors, est-ce que tu as des bannières Best Buy, par exemple? Est-ce qu'on va traduire Best Buy en français? Tu vois, ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse claire à ce genre d'interrogation.
C'est pour les villes bilingues aussi, là. Tu sais, c'est jouer sur les mots, là. T'sais, pour les villes bilingues, on dit, ben écoutez, là, vous allez devoir changer votre statut, à moins de voter le contraire, le maintien, même si vous avez en bas de 50% de citoyens anglophones, là, hein, c'est ça, vous allez pouvoir voter le conseil de ville pour maintenir votre statut de ville bilingue. Ça, c'est jouer sur les mots.
Ben écoute, il y a j'ai fait une petite recherche, il y a 83 municipalités qui ont un statut bilingue au Québec, c'est-à-dire dont la population excède 50% d'anglophones.
Oui.
83 municipalités sur 1100 à peu près au Québec. Mais là, il y a plusieurs de ces municipalités qui continuent de se comporter comme des municipalités bilingues même si elles ont moins de 50% de population anglophone. Bon, quand je te disais avant d'aller à la pause, le ministre là réussit à marcher entre le mur par peinture, tu sais, t'essaieras de faire soit ton Robert marchant entre le mur par peinture, là, c'est vraiment un exercice extrêmement difficile. Il a dit, dans le fond, il veut pas créer de crise linguistique. Fait qu'il dit, il a dit à plusieurs reprises ce matin, je veux protéger les droits historiques des membres de la communauté anglophone. C'est vrai que cette communauté a des droits historiques. Alors, tu vas me dire, effectivement, c'est jouer sur les mots. C'est vrai. Tu sais, je m'appelle, par exemple, le maire de Dorval ou de Bedderfield, puis je vais juste adopter une résolution, puis je vais conserver mon statut de ville bilingue. Par contre, là où ça risque de changer, si tu permets en terminant, le fait d'être reçu, d'être servi en anglais dans les commerces. Parce que là, on dit, tu sais, tu vas à Montréal, ou peu importe, dans un commerce au Québec, tu entres, on est censé, la loi prévoit que tu dois être servi en français. Si tu ne l'es pas, tu pourras déposer une plainte auprès du nouveau commissaire à la langue française. Alors, tu vois, ça, c'est des exemples comme ça qui sont
moyen
dans la
beau,
loi.
Moyen beau bordel à prévoir. Ça va prendre du monde pour gérer ça.
Oui, oui. Hein, ben,
des inspecteurs.
Voilà.
Pis des...
voilà,
bon,
voilà.
Je reviens sur l'idée des villes bilingues, là. OK?
Oui.
Donc, ils balaient ça, ils renvoient ça dans la cour des conseils de ville. Ils vont devoir voter s'ils veulent demeurer bilingues ou pas. T'imagines les déchirements dans les conseils de ville? Parce que là, ça se peut qu'il y ait une majorité de conseillers qui disent « Non, non, nous autres, on veut être francophone 100%. » Puis là, il va y avoir des déchirements, il va y avoir des problèmes. Oui. Tu sais, tu dis « On veut éviter la crise linguistique, là. » Bien, j'ai l'impression que à ce titre-là, à ce chapitre-là, à cet endroit-là, il va y en avoir des crisettes.
Et probablement, effectivement, mais le gouvernement a prévu le coup en disant on utilise la clause dérogatoire, pas juste pour certaines dispositions de la loi, mais pour l'ensemble du projet de loi, sachant que certaines dispositions pourraient être contestées sur le plan constitutionnel. Le gouvernement se protège en ayant recours à la clause dérogatoire. Alors, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se traduire. C'est sûr que là, aujourd'hui, politiquement, le Parti libéral du Québec est embêté, le Parti québécois est embêté, de même que Québec solidaire. Et je sais pas si tu as remarqué ce matin à la conférence de presse, François Legault a dit on est un gouvernement nationaliste. Il dit comme nationaliste, je suis très fier de déposer ce projet de loi. Tu sais, le gouvernement de François Legault là, ne s'identifie plus comme un gouvernement caquiste ni autonomiste, mais comme un gouvernement nationaliste.
J'ai bien aimé l'expression. Je sais pas si c'est Trudeau ce matin ou Landry, un des deux, qui a dit l'expression. Ils sont Monsieur Legault est en train de finir le lunch du PQ. est en train de finir de manger le lunch du PQ.
Ça, c'est une expression consacrée en politique, mais qui démontre à quel point, effectivement, François Legault est en train d'occuper le petit peu de patinoire qu'occupe actuellement sur le plan politique, le Parti québécois. Et puis, je ne sais pas si tu as vu le dernier sondage léger, là, mais là, avec un projet de loi comme celui-là, François Legault là, s'achète presque une
réélection assurée.
Une réélection assurée, effectivement. Voilà, merci de m'aider.
Non, mais Nathalie, écoute, on peut faire un peu de politique fiction, là.
Oui. Amusons-nous.
Et si le grand sauveur de la nation québécoise, celui qui faisait arriver ce qui n'est pas arrivé en 95 puis en 80, hein, amenait les Québécois vers la souveraineté, est-ce que François Legault, lui, on fait de la politique fiction, là, on peut...
Oui, okay? J'ai envie de te dire, rêve toujours, mon lapin, rêve toujours, mon lapin.
Tu peux toujours courir.
Mais je pense pas que... Tu peux toujours courir ou tu rêves. Oui, exactement, c'est ça. Puis tu peux toujours rêver, mon lapin. Non, mais honnêtement, je ne crois pas que ça va arriver.
Mais tu penses que, tu sais, les êtres humains là, qui aiment le pouvoir, qui aiment accomplir des choses, tu sais, l'échelle de Maslow, là, tu sais, vraiment, son plus grand, lui qui était un souverainiste de la première heure, aux côtés de Pauline, entre autres, puis qui est allé à l'école souverainiste, ce ne serait pas son rêve d'arriver finalement à constater que le Québec ne peut choisir une autre voie que celle de la souveraineté et de la
espèce de crescendo. C'est un roulement de tambour. Oui. T'imagines les trompettes et les tambours. Absolument, tout à fait. Oui, peut-être qu'il sera tenté de le faire, mais il y a énormément de travail pour convaincre les Québécois, parce que les Québécois sont ailleurs sur le plan de l'idée de l'indépendance. Moi, je continue de croire que c'était le projet d'une génération. Je te dis pas qu'il y en a qui ne rêvent pas à ça. Il y a encore plusieurs milliers de Québécois qui rêvent à cette idée de faire du Québec un jour un pays indépendant, mais avec une loi comme celle-là, comment dire, ça peut sustenter certains indépendantistes et nationalistes. Mais le Parti québécois doit rager, parce qu'ils doivent se dire, comment se fait-il qu'on n'a pas pu aller aussi loin, nous, lorsqu'on formait le gouvernement? Il y a certainement énormément de frustration aujourd'hui de la part des députés du Parti québécois, qui risquent, en passant, le Parti québécois, on va se le dire franchement, risque de disparaître de la map politique au Québec. Là.
Oui,
c'est peut-être
ce qui
va arriver à la prochaine élection.
On est drôle, nous autres, Nathalie, québécois, parce que d'un côté, on va éliminer le Parti québécois de René Lévesque, puis de cette gang-là, tu sais, qui ont façonné une bonne partie du Québec d'aujourd'hui. Puis d'un autre côté, aux élections fédérales, on s'apprête à réélire une grande majorité de députés québécois bloquistes. On est drôle.
Ouais, mais c'est une espèce de contrepoids. Lorsque le Bloc québécois a fait son apparition à Ottawa sur la scène fédérale, c'était temporaire, hein. C'était pas.
Ben oui.
Puis là, ça, y a rien de plus permanent que ce qui est temporaire. Mais effectivement, ça fait un contrepoids. Mais ce projet de loi, Robert, il a la capacité d'être, dans le fond, d'être érigé en legs. Ces genres de projets de loi qui va faire en sorte que ça va être le legs de François Legault sur le plan identitaire, sur le plan linguistique. Si c'est bien joué politiquement, effectivement, ça pourrait devenir une marque de commerce, un peu comme la loi 101 l'a été pour le gouvernement de René Lévesque. Cette loi, qui est la loi 96, va être remplacée par la loi 101 va être remplacée par la loi 96 ou par le projet de loi 96 lorsqu'il sera adopté. Alors ça pourrait effectivement représenter énormément de puissance sur le plan du symbole. Alors bien hâte de voir comment le Simon Jolin Barrette va se débrouiller en commission parlementaire. Est-ce qu'il y a des amendements qui seront apportés? J'en doute honnêtement, parce que le projet de loi me semble présenter des voies de passage, entre autres pour la communauté anglophone, qui semble intéressant. C'est sûr que le Parti québécois proposait, par exemple, la loi 101 qui soit appliquée aux cégeps anglophones. Ça n'arrivera pas, mais pour les cégeps, tu vois, tous les jeunes qui fréquentent les cégeps, sauf les anglophones qui ont des droits, devront passer un examen du français, l'examen du ministère, pour obtenir leur diplôme. Ça, c'est différent de ce qui se passe actuellement.
On va parler. Écoute, on commence là à parler de ça.
Oui.
On va en parler probablement la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, parce qu'avant d'aboutir avec une loi proprement parlée, je pense qu'on va aller dans le prochain mandat de la CAQ.
Oui, puis tu vois, ben, ce qui est assez incroyable dans ce cas-ci, c'est que ce dossier n'était pas du tout sur l'écran radar de la CAQ lors de la dernière campagne électorale. Il n'était absolument pas question de modifier la loi 101. Ça faisait pas partie des engagements de l'équipe de la CAQ. Et puis là, ben, évidemment, ils sont arrivés au pouvoir en octobre 2018. Et là, ils ont constaté effectivement des articles là, qui sont publiés, étaient publiés à répétition sur le déclin du français à Montréal, l'enjeu du bonjour aïe et tout ça. Alors, ils se sont dit, il faut poser des gestes. Et honnêtement, c'est une grosse pièce législative. Je disais, là, un peu plus tôt, 100 pages, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles. Alors, ça va être un travail fort intéressant pour les parlementaires de débroussailler tout ça, évidemment.
Et surtout les commentateurs dont tu fais partie maintenant, d'analyser, de lire tout ça, de le comprendre, de l'analyser. Nathalie, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir avec nous autres.
Bon après-midi à toi, Robert.
Je te souhaite de passer une belle journée. Retourne à tes lectures et on t'écoute sur toutes tes autres tribunes pour voir comment tu auras évolué dans ta pensée profonde.
Merci, Robert. Au plaisir.
Salut, bye-bye.